Bon, on avait commencé à voir hein, la semaine dernière le fruit de l'esprit, ce que le verset il en dit, et on avait parlé un peu du fait que c'est quelque chose que Dieu veut voir dans ses enfants, peu importe son tempérament. Il veut voir les 9 caractéristiques du fruit de l'esprit. C'est pas juste qu'il y en a un qui prend plus vers un, plus vers l'autre. Nos tempéraments feront en sorte que certains auront une plus grande facilité pour certaines choses et que d'autres sera plus difficile. Il leur faudra travailler un peu plus. Et ce que j'aimerais, pendant que ça s'allume, que j'aimerais rappeler, ceci est vrai pour tous les tempéraments, même en dehors du fruit de l'esprit. On a parlé des qualités et des négatifs de chaque tempérament, n'est-ce pas? Mais toute personne a la capacité d'avoir les positifs et négatifs de tout tempérament. Moi, flegmatique, je peux être pointilleux et, comme on dit, c'était pas, j'oublie maintenant le mot, mais perfectionniste, hein, du colérique. À certains moments donnés, ce sera plus difficile pour moi d'acquérir cela, mais il m'est possible. Tout comme il est possible pour le colérique d'être à un certain moment feignant, ou le mélancolique d'avoir la joie du sanguin, ou du sanguin d'être dépressif comme le colérique, comme le mélancolique. Tout le monde a la capacité d'avoir toutes ces choses dans sa vie. C'est juste que pour certains, ça demandera plus d'efforts que d'autres. Mais il faut pas faire l'erreur de ce qu'on entend. Ah ben, de toute façon, moi je suis comme ça, je peux pas être comme ça. Si, on peut. Mais nous, en tant que chrétiens, ce qu'on a en plus, c'est qu'en plus de cela, on a le Saint-Esprit en nous, qui veut, en plus de ce que le tempérament avec lequel on est né, rajouter le fruit de l'Esprit qui nous aidera justement à acquérir toutes les qualités de tous les tempéraments qui vont se regrouper dans ce fruit de l'esprit, et de pouvoir dire ben, ça c'est pour c'est le sanguin qui pourra avoir celui de la joie et l'amour, ça c'est pour eux, mais moi le mélancolique que je suis, je peux pas avoir ça. On peut pas, ou plutôt il nous est plus difficile si on veut essayer de l'acquérir de par notre propre force. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, on connaît le verset, n'est-ce pas? On en parlait avec Suzanne pendant qu'on marchait cette semaine. On ne parlait pas de cette étude, mais le verset qu'on a partagé, c'est « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Est-ce qu'on croit que ce verset dit vrai, ou est-ce qu'on fait Dieu menteur? Est-il possible qu'il y ait quelque chose que Dieu n'est pas capable, n'est pas assez puissant de faire dans ma vie, en dehors du fait si c'est moi qui l'en empêche? Je puis tout par celui qui me fortifie. Ça inclut que Dieu, malgré mes défauts, peut m'aider à grandir en maturité pour montrer les 9 caractéristiques du fruit de l'esprit. Donc, il fallait quand même que je mette ça au clair en attendant que ça s'allume un peu plus clairement. Donc, on commence avec l'amour, n'est-ce pas? C'est le tout premier. Je ne crois pas que c'est un hasard de pourquoi Dieu avait voulu mettre celui-là en premier. Nous savons que le mot amour, ici spécifiquement, c'est le mot agapé. On sait que la Bible a plusieurs mots pour définir le mot amour. Et on ne va pas toutes les voir ce soir, mais ici, c'est le mot agapé, celui qui parle de cet amour sacrificiel à l'exemple de Dieu. Et en ce qui me concerne, un inconverti ne peut pas avoir un amour agapé. Pas assez régulièrement pour qu'on puisse utiliser ce genre d'amour pour décrire cette personne. Parce que c'est un amour qui doit venir de Dieu, qui est directement lié à notre amour pour Dieu, et donc qui va également s'écouler pour notre amour que nous avons pour notre prochain. Et l'inconverti n'a pas l'amour de Dieu qui vient d'un amour pour Dieu. Et donc il ne peut pas, pour moi, vivre avec un amour agapé dans sa vie. Et c'est comme ben, Matthieu chapitre 22, verset 37, hein, nous dit, Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. » Plus grand comme le plus important. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, et on sait qu'il est en train de citer le passage en Deutéronome, un passage, on voit, et ce n'est pas la seule fois qu'il l'utilise à travers le Nouveau Testament dans son témoignage, parce qu'il savait que c'était l'un des commandements que même le peuple d'Israël connaissait bien et prenait jusqu'à un certain point à cœur. Et pour, juste pour être clair, hein, ceux qui seraient un peu sceptiques, les deux fois que le mot aimera sont utilisés ici, c'est bien le mot agapé. C'est pas une autre forme d'amour qui est utilisée ici. Mais c'est cet amour inconditionnel qui vient de Dieu et pour Dieu. Ce type d'amour ne peut être que d'origine surnaturelle et divine. Vous ne serez peut-être pas d'accord, mais je pense que l'homme est naturellement dans sa nature original, cupide, l'homme dans sa nature sans Christ, sans salut, est un homme égoïste et aime mettre ses propres besoins et envies en premier. Pour que l'homme, pas seulement mette la volonté de Dieu en premier, d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa foi, toute sa pensée, que sa volonté soit plus importante que la sienne, mais en plus, un amour qui va le pousser à s'intéresser aux autres, pour que la volonté de Dieu se fasse au-dessus de la sienne, ça ne peut être que le produit d'un travail surnaturel. Ça ne peut pas venir d'un travail de l'homme qui dit « il faut que je fasse ceci ». L'homme de lui-même s'aimera toujours plus qu'il ne va aimer son prochain sur le long terme. Il voudra bien, oui on le sait, montrer de l'amour pour son prochain. Surtout quand les conditions sont bonnes, quand ça ne va pas trop à l'encontre de son confort. Mais d'aimer Dieu en premier, ainsi que son prochain plus que soi-même, c'est un amour qui ne peut venir que de Dieu. Et ça ne peut être que le travail du Saint-Esprit dans le cœur du croyant. Et encore une fois, je suis d'accord, il est vrai que certaines personnes, même inconverties, possèdent de fortes tendances à faire le bien envers son prochain. Certains, même au point de faire certains sacrifices. Je suis d'accord. Mais l'amour décrit ici ne concerne pas uniquement ceux qui peuvent susciter en nous de l'admiration ou compassion, mais c'est pour tous les hommes. C'est pour toute personne. C'est comme en Luc chapitre 6, verset 27, il nous dit « Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous maltraitent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous sera-t-on ? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. » Ça ne peut pas être le produit de l'homme. Ça, ce n'est pas la nature normale de l'homme de vouloir mettre ceci en pratique régulièrement dans sa vie. Ça ne peut être que le travail du Saint-Esprit dans le cœur d'un croyant qui, lui, a le désir d'aimer Dieu de tout son cœur, de tout son être, de toute sa force, de mettre Dieu en premier et d'avoir ce vrai amour qui vient de l'une des conséquences, des résultats du fruit de l'Esprit dans son cœur. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Pourquoi est-ce que je serai miséricordieux ? Par amour pour Dieu, mais aussi par amour pour mon prochain. Aimez vos ennemis et faites du bien à ceux qui vous haïssent. C'est pas facile, c'est pas évident. Ça, le monde dirait ce n'est pas naturel. Le Saint-Esprit dit ça c'est naturel. Bénissez ceux qui vous maudissent. Non, ça nous offense. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Et on a déjà eu des prédications là-dessus. On dit, quand vous priez pour ceux qui vous maltraitent, on n'est pas en train de, Seigneur, je prie que tu les flambes et que tu les jettes dans le... et tu leur fasses autant de mal que tu peux. Priez pour ceux qui vous maltraitent, dans ce contexte qui nous est donné, c'est de prier en bien et en faveur envers ces personnes. On peut prier, Seigneur, touche leur cœur, aide-les à à réaliser, à comprendre différemment. Ça, il n'y a pas de mal. Mais on n'est pas en train de prier à ce que le Seigneur les terrasse. Aimez vos ennemis, faites du bien. Prêtez sans rien espérer. Prêtez, on comprend le terme. On donne dans la compréhension qu'on va redonner ce qu'on a prêté à la personne. Mais il dit, sans espérer, tu prêtes, s'il ne redonne pas, comme il l'a promis, ça ne change pas l'amour que tu as envers cette personne. Tu prêtes, je ne vais pas dire en supposant que tu ne le recevras plus, mais tu le prêtes, et s'il ne le redonne pas, ça ne change rien dans ta relation avec cette personne. Et on pourra continuer hein, sur ce passage. Mais ce type d'amour n'est jamais engendré par l'homme. Ce sera toujours le désir de Dieu pour nous que d'aimer lui de tout notre cœur, toute notre âme, toute notre pensée, qui nous poussera à agir envers les personnes qui le monde dirait ne méritent pas cet amour. Parce qu'en fait, nous ne méritons pas l'amour de Dieu. Ce n'est pas parce que nous sommes sauvés maintenant que nous méritons son amour. C'est toujours par sa grâce. Et c'est pour ça que je crois qu'il rajoute, soyez donc miséricordieux. Parce que moi, je vous montre de la miséricorde constamment, malgré le fait que vous êtes sauvés, malgré le fait que vous êtes mes enfants. Vous savez, j'imagine qu'on pourrait trouver toutes sortes de types de tempéraments chez les apôtres, rien que chez les 12 apôtres. Et pourtant, le Seigneur leur a dit en Jean chapitre 13, versets 34 et 35, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Il a dit, ça c'est l'une des choses que j'ai besoin que vous compreniez en étant mes disciples, mes 12 apôtres, que vous commencez par vous aimer les uns les autres en premier ardemment, de cet amour-ci, de cet amour inconditionnel, parce que dans ce passage aussi, c'est toujours le mot agapé. Et ça veut dire ce que ça veut dire, un amour inconditionnel. Ça ne dépend pas de l'autre, c'est mon choix de vouloir le faire par amour pour Dieu. Et quand je choisis de ne pas aimer mon prochain de la manière que Dieu me dit de l'aimer, je suis en train de démontrer que je n'aime pas Dieu comme je devrais. Ça n'a rien à voir avec ce que l'autre m'a fait. Ça n'a rien à voir avec quel point ils m'ont fait mal, à quel point j'ai été blessé. Ça a tout à voir avec mon amour pour Dieu. Et le plus que je suis sensible au Saint-Esprit en moi, le plus que je vais être donc ouvert à ce que le Saint-Esprit me dit et que je serai à l'écoute de ce qu'il me dit. Quand quelqu'un m'offense, quand quelqu'un on m'attaque, est en train d'attiser mon ego, le Saint-Esprit va être là. Non. Calme ton ego, c'est l'amour que je veux que tu montres. C'est pas parce qu'il le mérite, pas parce que tu es spécial, et par amour pour moi. Dans l'Église, hein, comme dans les familles chrétiennes, je suis certain que beaucoup d'affaires douloureuses auraient pu être évitées si le chrétien avait cherché cette première caractéristique d'un tempérament rempli de l'esprit, cet amour agapé, cet amour inconditionnel, par amour pour Dieu, je vais montrer de l'amour envers ce frère ou cette sœur qui m'a offensé. Un bon test qu'on peut se donner, et pas utilisé pour juger les autres, c'est pour savoir si nous sommes remplis de cet amour agapé, c'est de se comparer à des versets, hein, comme Jean 14, 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Pas « Si vous m'aimez, gardez les commandements que vous préférez. » Gardez les commandements qui conviennent à votre style de vie. Il dit tout simplement « Mes commandements. » Tous, sans exception. Ou encore, en Jean chapitre 15, verset 8 et suivant, il dit, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. » Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé le commandement de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Combien de fois est-ce qu'il va le répéter? Parce qu'il sait combien de fois est-ce qu'on est rapide à l'oublier. Verset 13, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Voyez le lien pour moi qui est évident entre le verset 8 qui parle du fruit de l'esprit, de porter beaucoup de fruits avec un amour qui se manifeste pour Dieu, avec l'amour que nous avons pour les autres, qui se manifeste par notre obéissance volontaire, qui, elle, verset 11, va automatiquement produire de la joie et la paix. Les deux choses que tout homme veut et désire, il préfère essayer de se l'acquérir par leurs propres moyens, souvent d'une manière financière, ou à travers la bouteille, ou à travers d'autres façons, ils espèrent procurer cette joie et cette paix. Ils disent, si vous êtes mes enfants, voici la façon, il n'y a pas de plus grande joie, il n'y a pas de plus grande paix, qu'en ayant le fruit abondé dans votre vie, où ça devient, ce n'est plus une lutte, ça devient votre façon de vivre, que de vouloir démontrer l'amour de Dieu en vous. Alors, il ne parle pas de porter beaucoup de fruits dans un sens qu'on peut quantifier, de compter le nombre de personnes qui sont converties ou combien de personnes envers qui on a témoigné. Il va de porter beaucoup de fruits à parler sur 6 versets encore et encore d'à quel point nous aimons Dieu et comment on aime parce qu'on aime Dieu, qu'on aime les uns les autres. De cet amour agapé. Il n'y a pas d'autre forme pour le mot utilisé dans ce passage qu'on vient de lire que le mot agapé, que cet amour que le Saint-Esprit veut faire pousser dans notre nouvelle nature. Si ces versets peuvent servir pour vous décrire, oui, ça, c'est une description de comment je vis ma vie, elles sont une réalité pour vous, alors vous pouvez dire que votre amour est le fruit du Saint-Esprit en vous. Sinon, si ce n'est pas le cas, non, ça c'est des versets qui me sont étrangers. Il m'est arrivé parfois de le faire, mais plus que fois que non, sinon ça ne me décrit pas moi. Alors on n'est pas encore rempli, contrôlé par le Saint-Esprit, rien qu'à cause de ce premier caractéristique des fruits qui nous est mentionné. J'aimerais quand même lire également d'autres passages qui ne sont pas là-dessus par rapport à l'amour, cet amour agapé spécifiquement. Et si vous avez des remarques à faire par rapport à chaque passage, ce sera le moment. Premier, en Matthieu chapitre 5, versets 44 et 46. Mais ça revient au passage que nous avons lu tout à l'heure. Matthieu 5, 44 et 46. Mais moi, je vous dis, j'en ai parlé avec Josh ce dimanche d'ailleurs. Verset 43 nous dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Et verset 46, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Il dit, soyez donc parfaits, ce mot dans le grec, ça veut dire d'être complet, entier, comme votre Père céleste est parfait. Oh ben c'est bon, hein, c'est pas très subtil hein, pour me dire que je dois finir. Hein. je plaisante quand même. Il n'y a pas de souci. Éphésiens chapitre 5, verset 25. Ah. Oh ben, ils s'y mettent aussi. Éphésiens 5, 25. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. C'est le verbe agapé. On ne doit pas aimer, on doit aimer. C'est un amour inconditionnel, peu importe ce qu'elle fait après, jusqu'à la mort nous sépare. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 22. Pierre, chapitre 1er, verset 22. Ayant purifié vos âmes et obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Alors oui, il parle d'abord de cet amour fraternel, ça c'est pas le mot agapé, c'est Philadelphia. Mais ensuite il dit, aimez-vous ardemment, ça c'est le mot agapé. Aimez-vous les uns les autres d'un amour inconditionnel, de tout votre cœur. Et on termine avec 1 Jean chapitre 2, verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Je trouvais intéressant qu'il nous donne cette mise en garde en utilisant ce mot agapé ici, de ne pas agaper le monde, de ne pas avoir cet amour inconditionnel pour le monde, ni les choses qui viennent du monde. Notre amour agapé est réservé pour Dieu et les uns pour les autres, pas pour le monde. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires par rapport à cette première caractéristique des fruits de l'esprit sur l'amour, cet amour agapé? Tavaris.
Regarder les gens, par exemple nos amis, qu'on est censé aimer.